centralizētais eksāmens franču valodā, optimālais mācību satura apguves līmenis.
Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Personne 1.
En 2021, le travail, c'est le fait de passer du temps sur quelque chose qui nous plaît et de construire quelque chose, de contribuer à construire quelque chose. Et du coup, une passion, ça peut être aussi du travail. Quand t'es passionné, tu travailles sur une musique, c'est un travail quand même. Donc moi, c'est le fait de passer du temps sur quelque chose, une tâche qui te plaît, ou une tâche tout court.
Personne 2.
Le travail, pour moi, c'est un mode d'épanouissement, un mode de développement personnel où on va chercher à mobiliser ses compétences, ses connaissances, sa créativité pour résoudre des problèmes, pour apporter de la valeur à des gens. Et concevoir des nouvelles choses.
Personne 3.
Si effectivement on prend la crise comme référence, le travail c'est quoi pour moi ? Eh bien, si je devais le résumer en un seul mot, en fait, aujourd'hui, je dirais qu'il est le travail, il est agile. Et en fait, la crise, c'est un peu comme une confirmation. Qui nous permet en fait de nous dire que cette confirmation, c'est que le travail a du sens, et on s'en est tous rendu compte, hein, parce qu'on s'est rendu compte du sens de notre travail, et je pense que les collaborateurs de nos entreprises se sont aperçus en fait de cette nécessité de travailler, quelle que soit l'activité, parce que certains ont rempli des rôles sanitaires, logistiques, financiers, et que c'était essentiel.
Personne 4.
Très bonne question. Qu'est-ce que le travail pour moi? Je pense que ça a évolué. On a celle qu'on avait un peu enfant, où moi j'ai vu mes parents, où c'était pour avoir l'argent pour payer, pour vivre en fait. Et peut-être qu'on s'est construit à l'opposé de ces générations et cette classe moyenne, où c'était pour avoir de l'argent sur son compte bancaire. Je pense que ça reste aujourd'hui une source, mais ça nous permet de se rendre important, de rencontrer des gens. Dans mon cas, de vivre des expériences uniques. Donc pour moi, le travail, c'est une manière de gagner ma vie, c'est une manière d'apprendre, c'est une manière de rencontrer des gens.
Personne 5.
Je pense que le travail, ça reste à mes yeux la création de quelque chose de nouveau, quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Par contre, la manière dont on fait le travail risque de changer.
Personne 6.
Ça dépend vraiment des positions. Aujourd'hui, si tu vas regarder sur des sites comme Welcome to the Jungle ou encore les sites qui font des annonces pour des entreprises, on se rend compte que le marché du travail, ou en tout cas les postes proposés, sont tellement divers et variés et regroupent tellement en fait de compétences que le travail, c'est pas uniquement quand on ouvre son ordi. Le travail, c'est aussi quand on réfléchit alors qu'on est en train de faire la vaisselle. C'est aussi quand on est en train de faire du vélo et qu'on a une idée pour notre employeur ou pour notre business. Et donc, on travaille pas uniquement quand on est sur notre ordinateur. En fait, on travaille constamment. Maintenant, il faut avoir un équilibre pour pas que quand on considère pas travailler, que le travail vienne prendre notre place. Et pareil, en même temps quand on est censé travailler, que le reste vienne pas prendre la place. Et cet équilibre, il est compliqué à trouver. Et donc, le travail aujourd'hui, bah, c'est l'équilibre entre ces deux phases-là.
Personne 7.
Je suis convaincu que le travail, c'est la somme de trois briques constitutives. Les trois briques sont la production, la collaboration et la sociabilisation. Et ce qu'on fait tous, en fait, chez nous, ce qu'on fait tous dans le cadre de nos jobs respectifs, c'est un mélange de ces trois briques.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Personne 1.
En 2021, le travail, c'est le fait de passer du temps sur quelque chose qui nous plaît et de construire quelque chose, de contribuer à construire quelque chose. Et du coup, une passion, ça peut être aussi du travail. Quand t'es passionné, que tu travailles sur une musique, c'est un travail quand même. Donc moi, c'est le fait de passer du temps sur quelque chose, une tâche qui te plaît, ou une tâche tout court.
Personne 2.
Le travail, pour moi, c'est un mode d'épanouissement, un mode de développement personnel où on va chercher à mobiliser ses compétences, ses connaissances, sa créativité pour résoudre des problèmes, pour apporter de la valeur à des gens. Et concevoir des nouvelles choses.
Personne 3.
Si effectivement on prend la crise comme référence, le travail c'est quoi pour moi ? Eh bien, si je devais le résumer en un seul mot, en fait, aujourd'hui, je dirais qu'il est le travail, il est agile. Et en fait, la crise, c'est un peu comme une confirmation. Qui nous permet en fait de nous dire que cette confirmation, c'est que le travail a du sens, et on s'en est tous rendu compte, hein, parce qu'on s'est rendu compte du sens de notre travail, et je pense que les collaborateurs de nos entreprises se sont aperçus en fait de cette nécessité de travailler, quelle que soit l'activité, parce que certains ont rempli des rôles sanitaires, logistiques, financiers, et que c'était essentiel.
Personne 4.
Très bonne question. Qu'est-ce que le travail pour moi ? Je pense que ça a évolué. On a celle qu'on avait un peu enfant, où moi j'ai vu mes parents, où c'était pour avoir l'argent pour payer, pour vivre en fait. Et peut-être qu'on s'est construit à l'opposé de ces générations et cette classe moyenne, où c'était pour avoir de l'argent sur son compte bancaire. Je pense que ça reste aujourd'hui une source, mais ça nous permet de se rendre important, de rencontrer des gens. Dans mon cas, de vivre des expériences uniques. Donc pour moi, le travail, c'est une manière de gagner ma vie, c'est une manière d'apprendre, c'est une manière de rencontrer des gens.
Personne 5.
Je pense que le travail, ça reste à mes yeux la création de quelque chose de nouveau, quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Par contre, la manière dont on fait le travail risque de changer.
Personne 6.
Ça dépend vraiment des positions. Aujourd'hui, si tu vas regarder sur des sites comme Welcome to the Jungle ou encore les sites qui font des annonces pour des entreprises, on se rend compte que le marché du travail, ou en tout cas les postes proposés, sont tellement divers et variés et regroupent tellement en fait de compétences que le travail, c'est pas uniquement quand on ouvre son ordi. Le travail, c'est aussi quand on réfléchit alors qu'on est en train de faire la vaisselle. C'est aussi quand on est en train de faire du vélo et qu'on a une idée pour notre employeur ou pour notre business. Et donc, on travaille pas uniquement quand on est sur notre ordinateur. En fait, on travaille constamment. Maintenant, il faut avoir un équilibre pour pas que quand on considère pas travailler, que le travail vienne prendre notre place. Et pareil, en même temps, quand on est censé travailler, que le reste vienne pas prendre la place. Et cet équilibre, il est compliqué à trouver. Et donc, le travail aujourd'hui, bah, c'est l'équilibre entre ces deux phases-là.
Personne 7.
Je suis convaincu que le travail, c'est la somme de trois briques constitutives. Les trois briques sont la production, la collaboration et la sociabilisation. Et ce qu'on fait tous, en fait, chez nous, ce qu'on fait tous dans le cadre de nos jobs respectifs, c'est un mélange de ces trois briques.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Dès ses débuts, il y a une trentaine d'années, Jean-Christophe Béchet a consacré une grande partie de son travail à la photographie de rue. Dans ses images, la trace de l'homme est omniprésente, que ce soit dans les rues de Tokyo, Bamako ou New York. Cette exposition de la Villette à l'occasion du Salon de la Photo revêt pour lui une importance toute particulière. Jean-Christophe Béchet.
Le Salon de la Photo est un bon endroit parce que de plus en plus, ils sont aperçus que le matériel ne suffisait pas aux passionnés de photo, mais qu'il y avait besoin aussi que les outils débouchent sur une esthétique, sur une pratique artistique et culturelle. Et c'est maintenant de plus en plus important pour les gens de se dire j'utilise quel outil pour quelle finalité, mais qui passe pas par une comparaison technique, qui passe plutôt par une exploration entre guillemets artistique.
L'exposition Paysages habités retrace donc les nombreux voyages du photographe du Japon aux États-Unis en passant par l'ex-URSS ou encore Cuba, mais aussi sa découverte des petites villes françaises. Le titre de l'expo lui est venu tout naturellement.
Je m'intéresse principalement à des lieux de vie avec des gens et des arrière-plans, des maisons, des architectures ou du paysage naturel, voir comment l'humain évolue dans ce décor-là et d'essayer d'en sortir des cadrages, des images qui ont du sens.
Que ce soit en format carré, vertical ou panoramique, Jean-Christophe Béchet explique ne trouver de sens à la photographie qu'à travers les tirages papier, bien loin des ordinateurs et autres smartphones.
Je défends depuis longtemps l'idée que la photographie n'est pas une image, mais un objet, c'est-à-dire qu'une photographie existe une fois qu'on lui a donné une taille, un format, un cadre, alors dans une exposition ou dans un livre, voilà, une qualité de papier. Parce que là, on peut voir la photo vraiment qu'a voulu le photographe. Sur un écran, mon travail est complètement trahi.
Parmi les séries à découvrir à la Villette, on retiendra entre autres celle consacrée aux États-Unis. Pas de grand format ni de couleurs saturées ici, comme c'est le cas la plupart du temps pour traiter de ce sujet. Au contraire, il s'agit cette fois de tirages en petit format et en noir et blanc.
Je trouve qu'une station-service raconte presque mieux les États-Unis que le Grand Canyon et ses rues qui s'appellent appelle Main Street, qui sont des petites rues de petites villes, sont voilà, vraiment le symbole de ce que moi j'aime dans l'Amérique, ce que je vois dans l'Amérique. C'est souvent assez étonnant de voir à quel point c'est loin du rêve américain.
Parallèlement à cette rétrospective, Jean-Christophe Béchet a souhaité inviter deux photographes français, Gilles Roudière et Philippe Blaillot. Tous deux pratiquent comme lui une photographie de rue contemporaine. Ils ont arpenté les mêmes territoires, notamment les États-Unis et Cuba.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Dès ses débuts, il y a une trentaine d'années, Jean-Christophe Béchet a consacré une grande partie de son travail à la photographie de rue. Dans ses images, la trace de l'homme est omniprésente, que ce soit dans les rues de Tokyo, Bamako ou New York. Cette exposition de la Villette à l'occasion du Salon de la Photo revêt pour lui une importance toute particulière. Jean-Christophe Béchet.
Le Salon de la Photo est un bon endroit parce que de plus en plus, ils sont aperçus que le matériel ne suffisait pas aux passionnés de photo, mais qu'il y avait besoin aussi que les outils débouchent sur une esthétique, sur une pratique artistique et culturelle. Et c'est maintenant de plus en plus important pour les gens de se dire j'utilise quel outil pour quelle finalité, mais qui passe pas par une comparaison technique, qui passe plutôt par une exploration entre guillemets artistique.
L'exposition Paysages habités retrace donc les nombreux voyages du photographe du Japon aux États-Unis en passant par l'ex-URSS ou encore Cuba, mais aussi sa découverte des petites villes françaises. Le titre de l'expo lui est venu tout naturellement.
Je m'intéresse principalement à des lieux de vie avec des gens et des arrière-plans, des maisons, des architectures ou du paysage naturel, voir comment l'humain évolue dans ce décor-là et d'essayer d'en sortir des cadrages, des images qui ont du sens.
Que ce soit en format carré, vertical ou panoramique, Jean-Christophe Béchet explique ne trouver de sens à la photographie qu'à travers les tirages papier, bien loin des ordinateurs et autres smartphones.
Je défends depuis longtemps l'idée que la photographie n'est pas une image, mais un objet, c'est-à-dire qu'une photographie existe une fois qu'on lui a donné une taille, un format, un cadre, alors dans une exposition ou dans un livre, voilà, une qualité de papier. Parce que là, on peut voir la photo vraiment qu'a voulu le photographe. Sur un écran, mon travail est complètement trahi.
Parmi les séries à découvrir à la Villette, on retiendra entre autres celle consacrée aux États-Unis. Pas de grand format ni de couleurs saturées ici, comme c'est le cas la plupart du temps pour traiter de ce sujet. Au contraire, il s'agit cette fois de tirages en petit format et en noir et blanc.
Je trouve qu'une station-service raconte presque mieux les États-Unis que le Grand Canyon et que ces rues qui s'appellent Main Street, qui sont des petites rues de petites villes, sont voilà, vraiment le symbole de ce que moi j'aime dans l'Amérique et ce que je vois dans l'Amérique. C'est souvent assez étonnant de voir à quel point c'est loin du rêve américain.
Parallèlement à cette rétrospective, Jean-Christophe Béchet a souhaité inviter deux photographes français, Gilles Roudière et Philippe Blaillot. Tous deux pratiquent comme lui une photographie de rue contemporaine. Ils ont arpenté les mêmes territoires, notamment les États-Unis et Cuba.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Elle a grandi dans une maison qui analyse les regards et les discours. Le père, Antoine, historien et critique de cinéma, la mère, professeur de littérature. Mais chez elle, elle regardait beaucoup plus Louis de Funès que Godard et Truffaut. Petite, elle montait déjà ses spectacles avec sa meilleure copine et se filmait dans des adaptations d'Agatha Christie. La scène, ce fut une évidence, les concours de théâtre, beaucoup moins. Après 3 échecs angoissants au Conservatoire National, elle intègre l'école de théâtre de Lille, le metteur en scène Alain Françon et le parrain de sa promotion. C'est la révélation. Suzanne Debecq, bonjour. Alors cette idée de candidater à Miss Poitou, c'est venu dans un Super U.
Ah oui, exactement. J'étais très angoissée, comme vous l'avez dit, par cette histoire de...
Comme vous le dites sur scène. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Par cette histoire de concours de théâtre. Je me remettais beaucoup en question et je suis allée au Super U avec mon beau-père. Il y avait une petite affichette où il y avait écrit « Plus que 15 jours pour candidater à Miss Poitou-Charente ». Et là, mon beau-père a dit « Tiens, bah si t'as pas tes concours de théâtre, peut-être que tu pourras faire Miss Poitou ». Cette phrase m'a totalement soufflée. Oui, et je le remercie en fait finalement parce que ça m'a éclairée et je me suis dit mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, que je me présente à Miss Poitou-Charente et que ça questionne en même temps qu'est-ce que c'est d'avoir un rêve de devenir Miss et qu'est-ce que c'est que d'avoir un rêve de devenir comédienne.
Alors vous avez rempli le dossier, les photos dans les champs, tout ça parce que ça faisait bien Poitou-Charente. Vous avez passé 2 tours de sélection quand même et vous en avez fait donc un spectacle, plutôt une restitution ouverte de ce mois que vous avez passé avec les apprentis Miss Chloé, Lolita, Océane, Chiara, leur motivation, leur parcours. Il y a une danseuse, mais il y a aussi une ancienne rugbyman qui pesait 80 kilos. Et vous incarnez ça, tout ça sur scène avec votre comparse Raphaël Rousseau, qui est passé oui. par l'école Nouvelle Tête en début d'année. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans les aspirations des Miss?
En fait, ce qui m'a surpris énormément, c'est que elle se présente. Enfin, le concours fait que on se présente avec un discours assez normé, etc. Et en fait, quand j'ai rencontré chacune d'entre elles et quand on s'est rencontrées, en fait, on a toutes des parcours très très singuliers et du coup, c'est ça qui m'a. On habite toutes dans la même région à quelques kilomètres et en même temps, c'est pas du tout les mêmes vies. Et ça m'a... Donc, moi, j'ai essayé d'assembler un peu tous ces discours pour en faire un spectacle et une parole d'une jeunesse d'aujourd'hui.
Quoi. Exactement, parce que c'est extrêmement drôle puisqu'évidemment, elles sont coachées comme des concours de chevaux et vous appuyez le parallèle. Et donc, évidemment, on leur fait faire ce qui ressemble à un concours de chevaux. Mais comme le disait le metteur en scène Alain Françon qu'on écoutait dans ce portrait, vous vous intéressez tout d'un coup pas à ce qu'elles font, mais à ce qu'elles disent.
Exactement. Ouais, c'était vraiment très très important pour moi, et c'est ça que j'ai trouvé dans ces rencontres, c'était que en fait, c'est des jeunes filles par le concours Miss Poitou-Charentes et Miss France qui sont beaucoup regardées, beaucoup critiquées aussi. Très exposée, mais en fait on ne s'intéresse jamais à ce qu'elles disent, comment elles se racontent.
Et la seule chose qu'on leur propose comme espace pour développer leur personnalité, c'est de défendre une cause. Enfin, je veux dire, c'était extrêmement violent aussi.
Oui, c'était extrêmement violent, mais en fait, quand cette camarade m'a dit ça, c'était vraiment positif. Donc, elle m'a dit ça et je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait faire du théâtre avec nos différences, etc. Et c'est ça qui m'a un peu intéressée quand même. Je me suis dit bah ouais, parler de manière un peu étrange ou avoir une gueule, bah en fait c'est peut-être bien.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Elle a grandi dans une maison qui analyse les regards et les discours. Le père, Antoine, historien et critique de cinéma, la mère, professeur de littérature. Mais chez elle, elle regardait beaucoup plus Louis de Funès que Godard et Truffaut. Petite, elle montait déjà ses spectacles avec sa meilleure copine et se filmait dans des adaptations d'Agatha Christie. La scène, ce fut une évidence, les concours de théâtre, beaucoup moins. Après 3 échecs angoissants au Conservatoire National, elle intègre l'école de théâtre de Lille, le metteur en scène Alain Françon et le parrain de sa promotion. C'est la révélation. Suzanne Debecq, bonjour. Alors cette idée de candidater à Miss Poitou, c'est venu dans un Super U.
Ah oui, exactement. J'étais très angoissée, comme vous l'avez dit, par cette histoire de...
Comme vous le dites sur scène. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Par cette histoire de concours de théâtre, je me remettais beaucoup en question et je suis allée au Super U avec mon beau-père. Il y avait une petite affichette où il y avait écrit « Plus que 15 jours pour candidater à Miss Poitou-Charentes ». Et là, mon beau-père a dit « Tiens, bah si t'as pas tes concours de théâtre, peut-être que tu pourras faire Miss Poitou ». Cette phrase m'a totalement soufflée. Oui, et je le remercie en fait finalement parce que ça m'a éclairée et je me suis dit mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, que je me présente à Miss Poitou-Charentes et que ça questionne en même temps qu'est-ce que c'est d'avoir un rêve de devenir Miss et qu'est-ce que c'est que d'avoir un rêve de devenir comédienne.
Alors vous avez rempli le dossier, les photos dans les champs, tout ça, parce que ça faisait bien Poitou-Charentes. Vous avez passé 2 tours de sélection quand même et vous en avez fait donc un spectacle, plutôt une restitution ouverte de ce mois que vous avez passé avec les apprentis Miss Chloé, Lolita, Océane, Chiara, leur motivation, leur parcours. Il y a une danseuse, mais il y a aussi une ancienne rugbyman qui pesait 80 kilos. Et vous incarnez ça, tout ça sur scène avec votre comparse Raphaël Rousseau, qui est passé oui. par l'école Nouvelle Tête en début d'année. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans les aspirations des Miss?
Bah en fait, ce qui m'a surpris énormément, c'est que elle se présente. Enfin, le concours fait que on se présente avec un discours assez normé, etc. Et en fait, quand j'ai rencontré chacune d'entre elles et quand on s'est rencontrées, en fait, on a toutes des parcours très très singuliers et du coup, c'est ça qui m'a. On habite toutes dans la même région à quelques kilomètres et en même temps, c'est pas du tout les mêmes vies et ça m'a... Donc moi, j'ai essayé d'assembler un peu tous ces discours pour en faire un spectacle et une parole d'une jeunesse d'aujourd'hui.
Exactement, parce que c'est extrêmement drôle puisqu'évidemment, elles sont coachées comme des concours de chevaux et vous appuyez le parallèle. Et donc, évidemment, on leur fait faire ce qui ressemble à un concours de chevaux. Mais comme le disait le metteur en scène Alain Françon qu'on écoutait dans ce portrait, vous intéressez tout d'un coup pas à ce qu'elles font, mais à ce qu'elles disent.
Exactement. Ouais, c'était vraiment très très important pour moi, et c'est ça que j'ai trouvé dans ces rencontres, c'était que en fait, c'est des jeunes filles par le concours Miss Poitou-Charentes et Miss France qui sont beaucoup regardées, beaucoup critiquées aussi. très exposées, mais en fait, on ne s'intéresse jamais à ce qu'elles disent, comment elles se racontent.
Et la seule chose qu'on leur propose comme espace pour développer leur personnalité, c'est de défendre une cause. Enfin, je veux dire, c'était extrêmement violent aussi.
Oui, c'était extrêmement violent, mais en fait, quand cette camarade m'a dit ça, c'était vraiment positif. Donc, elle m'a dit ça et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire du théâtre avec nos différences, etc. Et c'est ça qui m'a un peu intéressée quand même. Je me suis dit, bah ouais, parler de manière un peu étrange ou avoir une gueule, bah en fait, c'est peut-être bien.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.